Aujourd'hui, à Rencontre, une spécialiste de l'occultisme et de l'ésotérisme, Marie-France James. Marie-France James, mon invitée d'aujourd'hui, est canadienne. Elle a travaillé en Afrique, elle a travaillé en Orient, dans le cadre d'activités de développement de coopération internationale. Elle s'est intéressée très vite aux questions d'occultisme, d'ésotérisme, de spiritualité orientale, ce qui l'a amenée finalement, après une thèse de doctorat sur les questions de développement, à retourner à Paris pour travailler sur un des grands maîtres, sinon le grand maître de l'occultisme contemporain, René Guénon. Elle a écrit d'ailleurs ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme l'ouvrage peut-être capital sur René Guénon, « Ésotérisme et christianisme » autour de René Guénon, publié aux nouvelles éditions Lati. Elle a publié par la suite un autre ouvrage, « Ésotérisme, occultisme, franc-maçonnerie et christianisme au 19e et 20e siècle ». C'est un ouvrage qui constitue comme un dictionnaire des personnes les plus importantes qui ont gravité autour de ces questions d'occultisme et d'ésotérisme. Marie-France James, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt cet ouvrage et je me suis demandé, après avoir lu toutes ces bibliographies, qu'est-ce qu'il y a de commun entre toutes ces personnes, depuis Yvan Ageli jusqu'à finalement André Préau et autres.
Je dirais qu'au XIXe siècle, tous les gens qui s'intéressent à ces questions constituent en fait une minorité. D'une part, il y a les gens qui sont issus des classes privilégiées et d'autre part, un certain nombre de marginaux. Parmi les privilégiés, bien, quelques aristocrates, des diplomates, des voyageurs, et parmi les marginaux, des hommes de lettres, des artistes, des rats de bibliothèque, et aussi, vraisemblablement, des ecclésiastiques, ou tout au moins d'anciens séminaristes. Tous ces gens ont en commun d'aspirer à une nouvelle vision religieuse. Vision religieuse qui tient à la fois, qui voudrait tenir compte à la fois des nouvelles données de l'histoire des religions, sur lesquelles on se penche de plus en plus, des récentes découvertes scientifiques en matière de physique, de chimie, de mécanique et d'exégèse, si vous voulez, et aussi des aspirations humanistes qui pointent à l'horizon depuis la Révolution française. Alors, ce sont essentiellement, comme je vous dis, une minorité et surtout des gens qui évoluent en marge des circuits officiels.
Mais vous vous intéressez donc à cet occultisme, à cet ésotérisme disons historique, mais je sais aussi que vous vous intéressez à ce genre de problème tel qu'il se pose actuellement dans nos sociétés contemporaines et plus particulièrement au Québec. Je sais que vous collaborez entre autres à une revue qui s'appelle Nouveau Dialogue, vous collaborez également à l'Informateur catholique et vous publiez des articles sur ces sujets. Vous avez aussi dirigé dans différentes universités des séminaires sur ces questions. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre cet intérêt pour l'occultisme, l'ésotérisme au 19e, 20e siècle et l'intérêt qui se manifeste pour les même question, tout au moins apparemment, en tout cas pour le profane que je suis, actuellement au Canada ou aux États-Unis?
Ben, je crois qu'il y a une certaine similitude entre la fin du 19e siècle et la fin du 20e siècle. Je crois qu'on fait face à un même désarroi spirituel. Et la poussée du monde scientifique remet énormément de choses en question. Et on cherche un peu de tous côtés une nouvelle synthèse. Et je pense que c'est en ce sens qu'on retrouve beaucoup de similitudes, comme je le disais tout à l'heure, entre le climat intellectuel, psychospirituel qui existait à la fin du 19e et celui qui existe aujourd'hui en notre 20e siècle finissant.
Nous reviendrons peut-être un peu sur ces questions, mais j'aimerais peut-être que maintenant nous essayons de mieux préciser le sujet. Occultisme, ésotérisme, symbolisme, théosophie, est-ce que tout ça c'est la même chose? Est-ce que c'est un mot pour désigner finalement le même genre de démarche spirituelle ou s'il y a vraiment une différence entre l'occultisme, l'ésotérisme, la théosophie, le spiritisme? spiritualisme, enfin tout ça.
Remarquez, on peut entrer dans les détails, c'est effectivement une question très complexe avec plusieurs branchements, mais enfin, moi j'emploie surtout l'expression, je suis une des premières à peut-être avoir forgé ce mot, d'ésotéro-occultisme, qui tend à regrouper tout l'ensemble du phénomène. Je dirais qu'en tant que phénomène global, au fond, ça concerne tout le monde du caché. Le monde de... un espèce de monde secret réservé à une certaine élite. Essentiellement, c'est ça, l'ésotéro-occultisme. Maintenant, si on veut faire une différence entre les deux, je dirais que l'ésotérisme s'intéresse avant... et si vous voulez, la partie théorique, alors que l'occultisme serait la partie pratique. L'ésotérisme recherche avant tout une connaissance intégrale du monde et de l'homme. Elle prétend aussi... elle prétend être aussi une espèce de supra-religion qui viendrait faire la synthèse de toutes les religions connues. Et c'est en ce sens qu'elle fascine beaucoup de gens aujourd'hui. Enfin, on la nomme sous différents noms, que ce soit l'Église intérieure, le règne de l'esprit, la religion de la cinquième ou de la sixième race, l'âge du Verseau, ainsi de suite. Tous des thèmes qui sont très, très connus et très actuels présentement. L'occultisme, au contraire, cherche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est quand même beaucoup plus technique et elle cherche à étudier les liens qui unissent tous les aspects de l'univers, à la fois visibles et invisibles. Et au fond, les principaux secteurs de l'occultisme sont en fait les grandes sciences traditionnelles qui sont l'astrologie, l'alchimie, la magie et enfin tous leurs dérivés.
Mais enfin, tout ce que vous dites là m'amène à vous poser... peut-être les objections les plus simples, mais enfin, les plus évidentes aussi. D'abord, n'est-ce pas, vous me parlez d'alchimie, alors qu'on vit dans un domaine de rationalité, d'ordre, de précision scientifique, n'est-ce pas? Alors, est-ce que précisément, quel sens vraiment ça a, ce genre de démarche? Est-ce que c'est une démarche absolument farfelue, vous qui l'avez étudié comme universitaire, qui avait apporté donc une étude rationnelle, une approche rationnelle? Est-ce que ça, c'est absolument farfelu que de s'intéresser à ces pseudo, enfin, ce qu'on pourrait appeler des pseudo-sciences, finalement?
Non, je ne saurais dire que c'est une démarche farfelue, au contraire. Mais c'est une démarche qui se veut, si vous voulez, pour équilibrer un petit peu cette emphase qui est mise sur l'approche scientifique, l'approche technique. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on rencontre une espèce de similitude par rapport à la fin du 19e siècle, qui est la grande époque du rationalisme et du scientisme. À un moment donné, les gens en ont soupé et on a besoin, si vous voulez, d'équilibrer le balancier. Mmh. Donc, il y a ce besoin d'équilibrer le côté rationnel par un côté intuitif, ce côté hyper-spécialisation par un côté organique. On recherche, si vous voulez, une conception organique du monde et de l'homme.
Mais est-ce qu'une telle conception a des chances d'avoir une influence actuellement sur la société? Est-ce que ça reste justement pas, au contraire, le fait de chapelles, de petits groupes qui se mettent en marge?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'actuellement, au contraire, nous assistons à un déferlement. Ce n'est plus, si vous voulez, réservé à quelques marginaux ou à des petites chapelles. Ils en sont peut-être les leaders, mais le nombre de gens qui s'intéressent à ces questions ne cesse de s'accroître de jour en jour. Et à mon avis, ça n'ira qu'en s'accentuant jusqu'à la fin du siècle.
Et vous avez consacré, nous l'avons dit au début, vous avez consacré quand même vos études sur l'ésotérisme occultiste. Vous les avez consacrées particulièrement à... approfondir, à creuser un portrait de René Guénon, n'est-ce pas? Pourriez-vous nous dire qui c'est ça, René Guénon, exactement?
René Guénon est un personnage fascinant, un personnage sur lequel je me suis penchée, j'ai consacré 10 ans de ma vie. Guénon est en fait le grand théoricien de l'ésotérisme et de l'occultisme au 20e siècle, quelqu'un qui a baigné dans tous les milieux depuis la fin du 19e siècle. Guénon est né en 1886, il est mort en 1951. Il est né en France, il terminera ses jours au Caire dans le cadre de l'islam. Guénon est intéressant, comme je disais, parce qu'il s'est intéressé à tous les milieux. Il a d'abord fréquenté les milieux occultistes de la fin du 19e siècle. Ensuite, il a rejoint les milieux soufis. Il a été initié à la franc-maçonnerie. Il est resté d'ailleurs maçon toute sa vie. Et ensuite, il a jaugé aussi avec les milieux catholiques. Et il s'est beaucoup intéressé aux philosophies proprement orientales, sans jamais quand même y mettre les pieds. Le plus loin qu'il est allé, c'est effectivement au Caire, où il s'installera à partir de 1930, donc jusqu'en 1951. Donc Guénon est quelqu'un qui a vraiment fait le tour de la question. Et ce qui est intéressant aussi chez Guénon, c'est qu'avant même qu'il publie sa longue série d'ouvrages, enfin plus d'une vingtaine d'ouvrages, Guénon va publier des articles alors qu'il est très jeune. Il va démarrer vers 1906. Et ces articles, enfin, il n'aura pas à les corriger par la suite. Guénon ne reviendra pratiquement jamais sur aucun des points qu'il aura avancés dans sa jeunesse. Alors, Guénon a une pensée solide dès le début et qu'il ne fait qu'approfondir au fur et à mesure de son cheminement.
Mais enfin, Guénon m'apparaît, enfin, j'ai lu donc cet ouvrage, Ésotérisme et christianisme, m'apparaît comme un homme qui est, enfin, si on employait une catégorie peut-être psychologique, un peu comme un espèce de schizophrène, n'est-ce pas, de monsieur qui se déplace continuellement, n'est-ce pas. On n'arrive pas à le stabiliser, à dire, vous me dites sa pensée, elle est définitive, mais lui nous semble au contraire continuellement en mouvement. J'aimerais savoir si, pour vous qui l'avez bien fréquenté à travers ses ouvrages, est-ce que Guénon, c'est un homme justement qui, dans sa démarche spirituelle, est un homme qui représente aussi une stabilité. Enfin, est-ce que sa démarche spirituelle se fait en ligne droite ou au contraire, si ce cheminement est vraiment tortueux, comme il peut apparaître à première vue?
Ah non, c'est paradoxal, mais Guénon, je vous dis, dès le point de départ, ses idées de base sont fixées. Il adhère à cette idée d'une tradition primordiale. Et si vous avez l'impression qu'il se promène à droite et à gauche, c'est qu'en fait, il cherche un peu partout des éléments, des confirmatures, si vous voulez, de ses postulats fondamentaux.
Mais prenons un exemple. Je vous tasse, n'est-ce pas, un petit peu là. Guénon collabore à une revue qui cherche à diffuser le culte du Sacré-Cœur.
Dans les années 20, oui. Ah, ça, c'est spécial.
Oui. Et au même moment, vous l'avez dit vous-même, il est franc-maçon. Comment peut-on être à la fois franc-maçon et travailler à une revue qui diffuse le culte du Sacré-Cœur?
Eh bien, ça fait partie de la stratégie ésotérique de Guénon en particulier, mais je dirais d'une bonne partie des milieux ésotériques et occultistes français. C'est-à-dire qu'à cette époque, on cherche à s'infiltrer, à pénétrer les milieux chrétiens. On est convaincu qu'en fait, on a le véritable ésotérisme, c'est-à-dire le sens caché de la tradition chrétienne, et que l'Église l'aurait éventuellement perdu. Alors, on se sent apôtre pour redonner au christianisme sa véritable signification. Et donc, on cherche à pénétrer les milieux chrétiens très orthodoxes, très traditionnels, pour essayer de faire valoir ces idées. Et en général, on joue sur deux terrains. Comme Guénon, tout en étant maçon dès 1912, eh bien en 1913 et en 1914, il collaborera à une revue qui s'appelle « La France chrétienne antimaçonnique ». Remarquez, il ne signera jamais son nom. Il emploiera le pseudonyme du Sphinx, pseudonyme d'ailleurs très énigmatique. Et par la suite, ce sera un peu la même chose avec la revue Règne Habite. Il sera recruté par des amis, mais en cachant toujours ses allégeances maçonniques et ésotéro-occultistes. Guénon essayant de faire connaître à ses amis qu'en fait, il a tourné le dos à tout ce passé. Mais Guénon n'a jamais tourné le dos à son passé. Mais il fait silence, ça fait partie de sa stratégie et de sa tactique pour pénétrer les milieux chrétiens et faire reconnaître sa pensée.
Et Franck James, vous me dites, jamais Guénon n'a tourné le dos à son passé, etc. Je vous posais une question la plus naïve. Est-ce que l'on est ésotériste? Comment devient-on ésotériste?
Je pense à travers une espèce d'insatisfaction. Je pense qu'assez souvent, vous avez sans doute retrouvé ça dans les notices biographiques que je relate dans mon second ouvrage, beaucoup de gens, au moment où ils fréquentent l'école, enfin surtout au niveau du secondaire, début d'universitaire, les gens sont insatisfaits, d'abord sont débordés de questions, et sont insatisfaits par les réponses qui leur sont offertes. Donc ils doivent, si vous voulez, aller un petit peu à droite et à gauche, chercher des réponses à leurs interrogations.
C'est ce que fait Guénon.
Il est typique à ce niveau-là, tout à fait typique. Alors Guénon va finir son baccalauréat, va monter à Paris avec l'idée de préparer École normale sup ou polytechnique. Et en fait, il sera déçu à ce niveau-là aussi. Et il ira du côté des milieux occultistes qui ont cours à la fin du 19e siècle, plus précisément à l'Institut des sciences hermétiques de ce fameux Papus, qui a été créé en 1890.
Il y a donc une conviction que ce qui est dit n'est pas suffisant.
Le discours officiel est
insatisfaisant, insuffisant.
Épipé. Le discours officiel est pipé et il faut aller dans certains milieux pour aller en dessous, aller chercher la vérité.
Mais si je vous ai bien compris, et je reprends l'exemple de Guénon, n'est-ce pas? Guénon naît dans un milieu chrétien.
Oui.
Mais, et il cherche à pénétrer des milieux chrétiens pour les convaincre d'une vérité qui serait plus grande et qu'il négligerait. Ou bien il veut miner ces milieux chrétiens.
Ben, il part, Guénon, comme tout bon ésotériste traditionnel surtout, on part de l'idée que depuis le Moyen-Âge, le christianisme s'est affadi, a perdu, si vous voulez, sa véritable vitalité. En fait, c'est un nostalgique besoin de retourner aux sources. Alors, Guénon dit, je suis dans le christianisme est la religion de l'Occident, c'est bien certain, mais on en a perdu la sève. Et on ne peut retrouver cette sève qu'en retournant aux sources de la véritable intellectualité, de la véritable métaphysique, qui pour lui est conservée avant tout en Extrême-Orient, enfin plutôt en Inde, dans les philosophies orientales, surtout dans les Védas. Mais enfin, pourquoi Guénon n'est pas allé en Inde? Pourquoi Guénon ne s'est pas fait hindou? C'est que, d'une part, Guénon considérait que pour être véritablement hindou, il fallait naître hindou. Alors, en tant qu'occidental, il a jugé que la solution qui s'offrait à des occidentaux en ce début du XXe siècle et encore aujourd'hui, c'était une tradition qui constituait, si vous voulez, le pont entre l'Orient et l'Occident, et ça a été l'islam. Plus particulièrement à travers le soufisme, parce qu'évidemment, l'islam orthodoxe ne reconnaît pas nécessairement ce type d'idée. Oui. Alors Guénon est entré, si vous voulez, a rejoint l'islam à travers le soufisme, un soufisme de type moniste, enfin, qui offrait tout à fait le flanc, si vous voulez, à l'ésotérisme.
Donc pour vous, il n'y a pas de contradiction entre le Guénon de la revue Règne Habit, ce Guénon qui collabore à la diffusion du culte du Sacré-Cœur, et le Guénon qui tout à coup meurt dans les années 40, début des années 40, si je ne me trompe pas, au Caire, et qui est enterré dans un cimetière musulman.
Non, du point de vue de Guénon, il n'y en a pas de contradiction, mais du point de vue de gens qui se situent à l'extérieur et qui observent Guénon et qui observent ce qui se passe dans ces milieux, effectivement, ça pose question. Et c'est ce que j'ai essayé de résoudre à travers mon ouvrage. Oui, j'essaie de comprendre à la fois le point de vue de Guénon et aussi le point de vue des chrétiens qui, à un moment donné, se réveillent et disent « Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il fait dans nos parages ?»
Oui.
Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier, voyez, une revue comme Règne Habit, c'est une revue qui était consacrée au symbolisme du Sacré-Cœur. Il ne faut pas oublier que le symbolisme est très important en matière d'ésotérisme et d'occultisme, d'une part, et d'autre part, que le symbolisme du cœur est un symbole central. Alors, ça permettait à Guénon de jouer sur deux terrains. Mais les gens n'ont pas été dupes très longtemps. Et d'ailleurs, Jacques Maritain, vers la fin des années 20, sera là pour dénoncer l'intrusion de Guénon dans ces milieux. Mmh. Et ce sera la fin de la collaboration de Guénon à la revue Règne Habit.
Oui. Mais justement, vous qui avez étudié ce problème d'un point de vue hystérique, et aussi d'un point de vue critique, oui, n'est-ce pas? Et vous qui considérez aussi actuellement tout ce foisonnement de l'occultisme autour de nous, j'aimerais que vous, à partir de cette expérience, peut-être que vous posiez un peu des jugements critiques sur ce que nous vivons, n'est-ce pas? Et premièrement, n'est-ce pas, cet occultisme actuellement, qu'est-ce qu'il peut apporter, ou qu'est-ce qu'il refuse, au contraire, du christianisme tel qu'il est vécu?
Le christianisme tel qu'il est vécu, je pense qu'on est à la recherche d'une espèce de synthèse, une espèce de synthèse universelle. Je pense qu'on refuse un certain exclusivisme du christianisme, à savoir que le christianisme serait seul à avoir la vérité. Et je pense que c'est un peu cet aspect, c'est aussi l'aspect, au fond, l'aspect de la croix. Vous comprenez? On veut une religion beaucoup plus humaniste, beaucoup plus centré sur l'homme, beaucoup plus global, qui concilie à la fois les aspirations spirituelles de l'homme et les aspirations purement humanistes. Mmh. Je pense qu'on cherche un petit peu la quadrature du cercle, une espèce de synthèse des contraires. Alors qu'en fait, probablement, la foi chrétienne, c'est peut-être tout à fait autre chose. Je pense que c'est ce qui est le plus... Il y a une nostalgie dans l'ésotérisme, une nostalgie de pouvoir concilier tout, à la fois le bien et le mal, le paradis et l'enfer, et ainsi de suite.
Mais alors, est-ce que devant ce foisonnement de l'ésotérisme, de l'occultisme, ouais, des théosophies, etc., comment jugez-vous, la réaction chrétienne actuelle? Est-ce que les chrétiens, officiellement ou comme individus, sont assez sensibles, selon vous, à ce foisonnement, ou si, au contraire, ils y sont trop étrangers?
Je pense que la population est très sensible à la montée de l'ésotérisme et de l'occultisme. Entre autres, toute cette dimension de symbolisme, cette façon de redécouvrir le sens des choses, je crois qu'on l'a beaucoup perdu dans l'Église et dans notre civilisation en général. Je n'attaque pas l'Église en particulier là. Je pense que c'est vraiment une conséquence de notre civilisation où les choses ont perdu leur sens. Les gens ont besoin de retrouver le sens des choses et je pense que l'ésotérisme et l'occultisme mettent beaucoup l'accent sur ce type de préoccupation. Et c'est peut-être avant tout cela qui intéresse les gens et les chrétiens en particulier. Donc, à ce niveau-là, je pense que ça répond vraiment à un besoin pour les populations chrétiennes. Maintenant, pour les populations en général, enfin, pour la civilisation en général, je dirais que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ce besoin d'espèce de trouver une synthèse universelle de la religion. Faire en sorte de trouver tous les ponts qui peuvent réunir à la fois les grandes religions qui ont existé à travers l'histoire.
Mais est-ce que Guénon ne disait pas lui-même qu'on devait plutôt s'insérer dans une tradition et aller jusqu'au bout de cette tradition plutôt que justement essayer de faire cette espèce de synthèse, de ce syncrétisme un peu?
Oui, Guénon n'est pas d'accord pour qu'en fait on papillonne d'une religion à l'autre. Guénon considère que si on est né dans une tradition, on a intérêt à y rester, mais on a à creuser de plus en plus. Mais à creuser à la lumière de l'ésotérisme traditionnel que lui est là pour nous présenter, si vous voulez. Alors, donc, rester ancré dans sa tradition, mais interpréter sa tradition à la lumière des fondements de l'ésotérisme traditionnel. Et c'est là où, d'un point de vue de chrétien, le problème est piégé.
Mais si moi je voulais devenir ésotériste, qu'est-ce que je devrais faire?
Oh bien, je pense vous ne poseriez pas la question de cette façon. Je pense qu'on a à l'intérieur de soi des préoccupations qui nous portent de ce côté. On se dit pas.
On ne devient pas ésotériste comme on devient membre d'un club social.
On se pose un certain nombre de questions et d'une certaine façon, ce qui fait qu'on est effectivement intéressé, attiré par l'ésotérisme et l'occultisme.
Mais vous, Marie-France James, 10 ans de votre vie, m'avez-vous dit, consacrée. Oui. À l'ésotérisme et à l'occultisme. Pourquoi?
Je pense que j'ai été intéressée à ces questions il y a déjà très longtemps. Je pourrais remonter jusqu'à mon enfance, mais j'en ferai abstraction pour le moment. Je démarrerai, disons, mon cheminement au moment où on assiste à ce nouvel engouement pour l'ésotérisme et l'occultisme en Occident, c'est-à-dire au début des années 60. Le mouvement a été lancé, je dirais, essentiellement, là, au début, par Louis Powells et Jacques Bergier. D'une part, avec la publication de leur ouvrage « Le matin des magiciens » et cette fameuse revue, la revue « Planète ». Moi, j'ai été partie prenante, si vous voulez, de ce nouveau discours. La même chose avec les ouvrages de Robert Charroux, là, sur les civilisations disparues ou encore les énigmes de l'univers, et ainsi de suite. Et j'ai lu la Bhagavad Gita, qui est en fait un des textes de base des Upanishads, le Tao Te Ching, ainsi de suite. Alors, tout ça est apparu comme un espèce de bouillonnement au début des années 60. Donc, j'étais très intéressée, j'ai beaucoup lu dans ce domaine. Mais sur le moment, j'étais intéressée, mais enfin, sans plus. J'étais intéressée aussi à voyager en Orient. J'ai toujours été fascinée par l'Orient. Et mon travail m'a amenée à séjourner au Cambodge pendant 2 ans et à aller en Inde et ainsi de suite. Et même à me rendre jusqu'à Katmandou à une époque où les hippies n'y étaient pas encore. Alors, il n'y a aucun doute que l'Orient m'a interrogée. Ensuite, je suis revenue en Europe avec l'idée de poursuivre des études dans le domaine du développement, ce que j'ai effectivement fait. Mais de retour, disons, en Europe depuis 67, j'ai donc été présente, partie prenante, si vous voulez, des événements de mai 68. Et à ce moment-là, beaucoup d'initiatives se créaient à droite et à gauche. Je n'étais pas plus politisée que cela. Mais j'ai été intéressée par les fameux ateliers Planète que Louis Powells a fondés. Alors, j'ai fréquenté un peu ces ateliers, mais enfin, sans plus, mais suffisamment pour connaître des gens et être mis sur la piste d'un certain nombre d'auteurs et d'ouvrages essentiels en matière d'ésotérisme et d'occultisme. Je me suis donc plongée dans les grands maîtres du 19e siècle pendant un certain nombre de mois. Et effectivement, là, j'ai été passablement chambardée au plan de ma foi. Je dois dire qu'au bout de 6 mois, je ne savais plus, je remettais pratiquement tout en question. Et là, il s'est passé quelque chose de spécial dans ma vie sur lequel je ne tiens pas à m'étendre pour le moment. Mais toujours est-il que mon cheminement s'est poursuivi et le grand tournant a été la publication par la revue Planète d'un numéro spécial consacré à René Guénon. Et là, j'ai vraiment trouvé le personnage qu'il me fallait. Moi, j'ai été tout à fait, je dois l'avouer, tout à fait séduite par l'ampleur métaphysique de l'œuvre de René Guénon. Alors, mais évidemment, tout ça a coïncidé avec la soutenance de ma thèse de troisième cycle. Je devais donc rentrer au Canada pour réintégrer un poste à Ottawa, ce que j'ai d'ailleurs fait, mais non sans avoir pris sous le bras une série d'ouvrages de René Guénon. Et assez rapidement, l'intérêt s'est vraiment accentué et j'ai compris que j'étais avant tout intéressée par cette problématique et besoin d'éclairer le problème de la rencontre de l'ésotérisme et du christianisme. J'ai donc décidé de plier bagage et de retourner en France un an plus tard. Et là, j'y ai consacré 10 ans de mon temps, vraiment à fond, pour essayer de voir dans quelle mesure l'ésotérisme et le christianisme sont compatibles ou ne le sont pas.
Et quelle réponse donnez-vous justement?
J'en suis venue à la conclusion. Remarquez, c'est une question fort complexe. On ne peut pas la trancher facilement. Mais enfin, pour aller à l'essentiel, je dirais que fondamentalement, l'ésotérisme et le christianisme sont inconciliables.
Inconciliables.
Parce qu'ils évacuent le fondement du mystère chrétien. Mais ça ne veut pas dire que l'ésotérisme ne peut pas nous apporter un certain nombre de choses et ne m'a pas effectivement apporté un certain nombre de
choses.
Qu'est-ce
que ça vous a apporté précisément?
Je pense une vision plus globale, une vision plus globale des choses, de l'histoire des religions, du sens profond d'un certain nombre de réalités, l'éveil au symbolisme, au sacré, à toute cette mythologie, mais qui demande à être réinterprétée, je pense, dans une perspective plus juste. Mais il n'y a aucun doute que l'ésotérisme ouvre énormément de perspectives, provoque un bouillonnement au plan des idées, au plan du subconscient, qui est, à mon avis, fort enrichissant. Mais il ne faut pas en rester là, je pense, surtout pour des gens qui s'inscrivent dans une tradition chrétienne et qui sont conscients de la vérité du Christ. Je pense qu'il faut ensuite aller plus loin et réintégrer ça, réassumer ça dans une perspective authentiquement chrétienne. Tout au moins, c'est là ma position.
Mais comment aller plus loin? Vous dites qu'il faut aller plus loin, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment peut se faire ce cheminement?
Je pense que ce n'est pas un cheminement purement intellectuel. C'est là qu'on entre dans la question des cheminements particuliers de chacun. J'ai fait allusion tout à l'heure au fait qu'il s'était passé quelque chose dans ma vie en 69, sur lesquels une expérience déterminante qui m'a confirmé que le Christ était vraiment la pierre angulaire. Et sur le coup, évidemment, je ne savais pas où tout cela me mènerait, mais je suis consciente aujourd'hui avec le recul que ça a vraiment été l'expérience déterminante qui a guidé par la suite tout mon discernement.
Donc, pour vous, il ne s'agit pas de rejeter ce bouillonnement actuel. Il s'agit au contraire d'être capable d'en comprendre le sens et, comme vous le dites, de l'intégrer en fonction de quelque chose de plus profond.
C'est ça. Et d'aller vers des gens qui ont effectivement une capacité de discernement, qui peuvent aider les gens à cheminer vers une meilleure conscientisation de toutes ces questions.
Marie-France Jaime, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.